Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Radio Foot International. Sur le pont d'Avignon, elle y danse sur le pont d'Avignon. La dame y danse le lundi, elle y dansera aussi le mardi. Voilà, je vous chante son absence comme ça. Amis auditeurs, vous savez qu'elle ne sera pas de retour avant mercredi.
Ouais, on vous préfère présentateur que chanteur quand même.
Ouais, moi aussi, mais de toute façon, vu le temps pourri qui fait à Paris depuis des semaines, ça changera pas grand chose. Et pendant qu'elle danse, la dame, le ballon roule. Et il a quand même sacrément bien roulé hier à Anfield, les amis. Liverpool City, quelle folie! Toujours très attendu, on n'est jamais déçu. Une régalade à laquelle il n'aura manqué qu'un ou deux buts supplémentaires. Et un pénalty ? Bref, c'est l'occasion, ce sera l'occasion d'un parti pris. Oui, Liverpool aurait sans doute dû gagner, mais c'est ainsi, hein, partout au final, un point d'écart toujours, Reds et Citizens, doublé par Arsenal en tête à la différence de but. Entre ces trois-là, le sprint final s'annonce royal. Et ça n'est pas vous, cher Salim Bomgali, qui allez me contredire, n'est-ce pas ? Bonjour.
Ah, bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, c'est le genre de match surtout qui vous réconcilie avec le foot. Si vous avez des soucis, si vous êtes agacé par certains matchs, des histoires, etc., regardez Liverpool City, vous êtes bien après.
Après la Première Ligue, la Ligue 1. Oui, oh, je sais, après la jolie mariée, on passe au laidron. Oui, mais bon, dans cette élite française, il y a un truc qui est bien, quand même, faut le reconnaître, c'est qu'en dehors du PSG, dont on sait chaque année qu'il va finir premier, tout le monde derrière peut rêver de podium et d'Europe. 2-3 matchs gagnés et hop, vous voilà dans le peloton de tête. 2-3 perdus et toc, vous voilà dégringolé. L'OM vient justement d'en gagner 3 de rang 5 même, en comptant la Ligue Europa. Inarrêtable la bande à Gasset, 3 buts encaissés, 18 marqués et un bon paquet par l'homme qui, à son époque stéphanoise, avait eu le mauvais goût d'avoir une Aston Martin dorée, entièrement dorée. On le lui avait reproché d'ailleurs ici, dans cette émission, à l'époque de son prix Marc-Vivien Faux. Et bien sûr, c'est la Panthère, PEA, Pierre-Emerick Aubameyang, 11 buts, 5 passes décisives, de retour au top comme l'OM, qui peut à nouveau rêver de podium avant un mois dantesque. On ne s'enflamme pas, Marc Libra, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens.
Exactement, bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Et comme on dit dans les visiteurs, t'es bien bonne pour un laidron. Parce que vous parlez de notre Ligue 1, mais bon, c'est quand même pas mal.
Ouais, bah il faut bien de temps en temps quand même. En fin d'émission, direction le Cameroun. Là-bas, on a appris ce matin que 62 joueurs de championnat avaient été déclarés inéligibles. Ah bon ? Bah pourquoi ? La raison, fraude sur leur âge, voire leur identité. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'elle puisse surprendre, justement. Parmi les pris par la patrouille, le dénommé Douala Nathan. Vous savez, le petit homme qui dansait façon Gollum lors de la dernière CAN devant des lions indomptables qui ont d'ailleurs nettement mieux dansé qu'ils n'ont joué. Le petit bonhomme avait 17 ans, nous expliquait-on, bien qu'il en paraisse le double. Ah, l'âge des sportifs sur le continent, vaste sujet, source inépuisable de doutes et de rigolades aussi. Parfois, Hervé Penaud, bonjour.
Oui, de doutes, et évidemment, on peut douter. Et la preuve aujourd'hui, alors bonjour à tout le monde, quel plaisir d'être avec vous. Mais heureusement, tout le monde ne triche pas sur son âge. Mais là, visiblement, il y en a eu quand même un petit paquet hein, sur ce coup-là.
Regardez Hervé Penaud,
mais c'est 57, pas son âge, non, mais c'est comme lui.
Mais dans sa tête, ouais. Dans sa tête 14
ans. 18, dans sa tête 14. J'ai 18 ans.
Voilà. Allez, une fois encore pas le temps de niaiser, Victor Missistrano a co-élaboré et communiqué, Mathieu de Gueldre va réaliser et nous on va bien causer.
The corner. Stones on the near. De Bruyne picks him out. One off the training ground.
These games, good games, great good games, fantastic football games.
And McAllister scores wonderfully well. The goalkeeper guessed right, but he couldn't get there.
It's a tsunami, so in that you have to survive.
Pas de vainqueur dans ce dernier choc entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Un grand match, un grand combat, et un vainqueur quand même à distance, c'est Arsenal.
What a game, les gars, quel match, vraiment. On en parlait, pour tout vous dire, amis auditeurs, avant cette émission, on en parlera peut-être après, mais on va surtout en parler pendant, parce qu'on a tous regardé, ici. Bon, pour certains comme moi qui aime bien le rugby, il a fallu zapper un peu, mais très vite, ce Liverpool-Manchester City nous a happé, n'est-ce pas, Salim ?
C'était... J'essaie de trouver les mots tellement c'était incroyable en fait. Déjà en regardant le match, je vous assure, à l'issue du match, et on en parlait en off, j'étais essoufflé. Mais je vous jure, pourtant j'ai pas joué le match a priori, mais c'était une dinguerie, vous baissiez la tête parce que j'étais en train de préparer mon émission du soir aussi. Vous baissez la tête, vous êtes en train de préparer tel match ou telle séquence, vous levez la tête, la balle est d'un côté. Vous baissez la tête, vous relevez d'autre côté. Vous baissez. C'était incessant, du contre à tout va, des pertes de balles, des récupérations, des erreurs techniques, des bonnes choses. Enfin, il y avait toute une séquence et un nombre d'histoires dans cette partie, et des joueurs aussi. Enfin, ça a été une soirée, une partie incroyable à tous les niveaux, sincèrement.
Marc.
Alors Salim a raison, c'était un petit peu fou, mais ça s'explique, parce que c'est vrai que sur la première période, on voit la domination de City qui va faire la différence. Ce but dont pas grand monde en a parlé, on pense que mais ce but est exceptionnel. C'est-à-dire que la passe de De Bruyne, qui est droitier, qui arrive à longer la ligne, parce qu'il doit, c'est un enroulé. Mais un enroulé à ce niveau-là, avec, c'est Hake qui fait comme au basket, qui fait
un bloc.
Mais c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est juste ça, c'est prévu. C'est-à-dire que faut savoir, Olivier, que sur ce genre de choses, on se dit bon, ok, ça va monter au second poteau fort, les gars. Sur le paperboard de Liverpool, ça va monter fort au second. Ou alors, les mecs arrivent lancés, on les prend. Qu'est-ce qui se passe? On a un mec qui fait un bloc, boum, premier poteau. Personne ne s'attend à ça. C'est-à-dire que là, t'as plié le game et tu dis, mais mais le ballon, il devait arriver au second. Non, c'est au premier poteau, c'est un petit plat du pied. Mais c'est, ça reste pour moi des actions de génie, ce genre de choses. Et ensuite, à la 70e minute, là, football total, vous n'avez plus d'entraîneur, vous n'avez plus rien, c'est on attaque, on défend, on attaque, on défend. Et là, ça part, comme on dit, on s'essouffle, on se dit, mais il va y avoir 4-4, 5-5, 2-2.
Bah, c'est bien ce que je disais, il manque finalement un score final, on le rappelle, il manque un ou deux buts. Ce que je voulais dire surtout en préambule, c'est que ces matchs-là, Hervé, sont toujours très attendus. Un City-Liverpool, vous savez, ou un Liverpool-City, vous savez qu'a priori, vous allez trouver le moment dans le week-end pour le regarder. Parce qu'on n'est jamais déçu, un peu comme un Real Barça. Et on en a d'autres des chocs. On en a d'autres des chocs en Angleterre. Celui-là ne déçoit jamais.
Il ne déçoit jamais. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le mouchoir dans lequel sont ces deux équipes, plus Arsenal. C'est ça surtout qui donne encore plus au choc de valeur et d'épaisseur. Et c'est vrai qu'entre les deux équipes, c'est déjà deux entraîneurs monstrueux. C'est-à-dire que vous avez Guardiola qui est considéré comme le plus grand penseur du jeu actuel. Et d'un autre côté, vous avez Klopp qui est peut-être le plus grand motivateur. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas le jeu.
Absolument.
Loin de là. Mais enfin, si vous voulez, un peu dans un aussi en caricature, deux schémas comme ça. Et mine de rien, le père Klopp, il a une petite avance sur Guardiola. Il a déjà gagné 12 fois contre lui, et l'autre 11. Là, il ne va pas le rattraper, en tout cas pas l'année prochaine. Peut-être dans les années à venir, on verra. Mais ça veut dire qu'au final, vous vous retrouvez avec deux idées, deux manières de penser, de voir le jeu, qui sont un petit peu différentes, mais surtout qui permettent d'avoir cette alchimie incroyable et ces matchs phénoménaux.
Et on a aimé follement cette accolade entre les deux hommes, cette étreinte même, beaucoup de respect, d'amitié.
C'est la classe.
Je vous propose d'écouter, bien sûr, on va les entendre tous les deux, autant vous le dire tout de suite, pas de jaloux, on ne boude pas son plaisir quand on a la chance d'avoir des extraits d'interview de ces deux hommes. Écoutons d'abord Jürgen Klopp, il en parle tellement bien de ce match, c'est un peu comme s'il avait été lui-même spectateur.
These games, good games, great games, fantastic football games.
Ces matchs contre Manchester City ont été de bons matchs, des matchs sympas, fantastiques même. J'ai croisé ma femme juste après le coup de sifflet final et elle était toute chamboulée. Ça devait être vraiment sympa à suivre des tribunes. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais vraiment ressentir un manque, si j'ai toujours le droit de regarder des matchs de football. Personne ne m'a dit qu'il fallait être entraîneur pour ça, donc ça va, mais c'était un bon match.
Oui, c'était un sacré bon match.
Very good. Il peut le dire.
Appelez-nous, s'il vous plaît, monsieur De Gueldre, monsieur Klopp. On voudrait le conforter dans son analyse et lui trouver, nous aussi, que c'était un très très bon match. 1-1, on l'a dit au final. Stones puis McAllister sur penalty. C'est vrai qu'on aurait aimé un ou deux buts supplémentaires. Ça l'aurait mérité.
Ben, disons qu'il y a eu les occasions pour, de part et d'autre. Hein. Il y a eu poteau Doku à City. Il y a eu du Darwin Núñez.
Barre pour Foden aussi, juste avant.
Incroyable.
De deux coups, c'est phénoménal. En plus, le ballon revient dans les bras du gardien.
Oui, bien sûr.
Ce débordement-là et tout ça, c'est une folie.
D'ailleurs, vous avez raison de parler de Kelleher. C'est depuis la saison dernière, depuis qu'on le voit plus régulièrement, quand Alisson est blessé ou en coupe, on voit qu'il a des qualités assez énorme ce gardien. Il est très jeune, il n'a que 25 ans au final.
Quel âge? 25 ans.
25, oui.
Mais 25 ans. Âge européen.
Oui, parce que là aujourd'hui, c'est là
on. C'est pas
le c'est on remet en cause tous les âges. Tiens, Laurent Salerno vient d'entrer en régie.
Et lui, il a 25 ans.
On le salue, maestro.
Lui, il
en paraît 72, mais et en fait, il en a 32.
Ouais,
c'est ça qui est dingue.
C'est ça.
Ça marche aussi dans l'autre sens.
Mais c'est vrai que Kelleher a réussi d'ailleurs à montrer des qualités, à avoir une réussite aussi. Vous avez évoqué ses poteaux, cette balle qui revient dans ses bras aussi. Mais les opportunités, Luis Diaz aussi qui a eu des belles opportunités. Enfin. De part et d'autre, encore une fois, ça aurait pu être 2-2, 3-3, 4-4, tant les joueurs ont été présents. Et j'insiste, c'est peut-être l'un des éléments que vous allez évoquer après. Moi, c'est Liverpool qui m'a le plus impressionné. Alors, non pas que City a eu moins de cases.
City moi, c'est, pour moi, c'est le contraire.
Mais City a eu plus d'opportunités.
C'est ça qui est bien dans l'émission.
City aurait dû gagner. Sauf que Liverpool.
Moi, c'est égalité.
Sauf que Liverpool, quand vous avez des joueurs comme Kansa, Elliott, Bradley, Kelleher, vous avez une moitié d'équipe à prime. Et au final, réussir à tenir la dragée.
Toutes les absences de Liverpool, c'est quand même quelque chose.
Et réussir à faire ça face à ce City, même si City a plus d'opportunités, ok. Moi, c'est pour ça que je dis que Liverpool m'a impressionné. Vraiment.
Je pense vraiment que sur. Parce que pour moi, ça va se décanter à la 65, 70e, où là, on va avoir un football total engagé. Et ça part dans tous les sens. Au plus, aucun coach ne contrôle rien. Ça peut faire 2-2-3-3. Mais avant ça, il y a cette maîtrise de City qui montre qui il est. Parce que lors de la première, c'est quoi? C'est Darwin Núñez qui a une frappe? Non, c'est la frappe de loin. Enfin, elle est à côté. Je crois qu'il n'y a pas une frappe cadrée sur la première période. Il ne se passe rien, quoi. C'est-à-dire que City a le monopole classique. Si Ake fait pas cette erreur, peut-être que tu reviens jamais. Il t'en ramène.
En seconde période, Liverpool a 12 frappes. Ça faisait 3 ans que City n'avait pas pris comme ça 12 frappes en une période.
C'est vrai.
Vraiment, il y a une vague de Liverpool et j'insiste, même si vous évoquez effectivement à partir de la 65e où c'était un football total, mais même avant ça, on a eu des séquences où Liverpool, dans le jeu même, montrait plus de choses, où Liverpool a réussi à rehausser son niveau de jeu justement par rapport à la première où ils ont été dominés.
Et c'est ça qui est le plus impressionnant, je trouve, dans cette équipe de Liverpool. C'est qu'il manquait des joueurs clés. Ça, c'est ça qui est important.
Trent Alexander-Arnold, Alisson, Salah qui était sur le banc, on pourra continuer longtemps.
Konaté, etc. Et même, Salah rentre quand même sur la fin. D'ailleurs, il met une passe absolument incroyable sur une occasion de but. Mais cette capacité à Liverpool à aller puiser au bout de ses réserves pour faire le match qu'ils ont fait là contre City. Effectivement, le stade aussi.
Tout le temps, c'est une caisse
de résonance absolument incroyable. Communion, en plus, on le sait, c'est la dernière de Klopp la dernière année. Donc ça ajoute encore un peu à cette effervescence.
On va revenir quand même sur ce pénalty, parce qu'on réclame des buts en plus. Il y aurait pu y avoir un pénalty, peut-être un but à la 92e, 13e, 14e.
Totalement.
La faute de Doku sur McAllister.
C'est 98 ou 99.
Là, il n'y a même plus de possibilité de revenir.
Il n'y a même plus de possibilité de revenir. On est d'accord que là, on a.
Il y a pénalty. Il y a pénalty. Ce pied, le pied de Doku est tellement haut. Alors, il est effleure pour le coup. Alors, c'est pas. La semelle du pied de Doku ne va pas sur le poitrail de McAllister. Mais ne serait-ce que d'effleurer et d'avoir un pied qui est à cette hauteur-là, c'est tout simplement illégal pour le coup. Si la faute avait été dans le rond central, l'arbitre, évidemment qu'il aurait sifflé sans souci. On a l'impression que tout d'un coup, la surface de réparation fait que le référentiel de gravité de la faute change. Ben non, une main reste une main, une faute reste une faute. Et là, tout d'un coup, ah ben non, il n'a pas vraiment touché ou un petit peu, donc on considère que c'est pas un penalty. Incroyable.
Le pied est haut, mais vous l'avez signifié, messieurs, tous les deux, tous les trois, on l'a signifié que c'est pas la semelle du crampon. C'est-à-dire qu'il voit qu'il va monter, qu'il va le heurter, et il met le pied sur le côté et il arrête son geste, mais il le percute. C'est-à-dire que McAllister est très malin, il va rentrer dedans. Peut-être que la VAR va dire. On a bien vu, vous savez, quand vous mettez une semelle, on met une semelle, on écrase. Là, on voit bien qu'il monte et McAllister arrive, il le percute. Et on voit Doku qui va bouger, qui va orienter son pied dans l'autre sens, mais qui va le heurter. Oui, il y a faute. Oui, pour moi, il y a penalty. La VAR a peut-être dit, c'est pas intentionnel, il n'a pas mis la semelle, il s'est arrêté à temps. Et en règle générale, sur ce coup-là, tu vois, il lui fait pas mal. McAllister va tomber parce que c'est le dernier corner. Voilà.
Pour prolonger ton propos, la VAR a peut-être dit que l'erreur n'était pas manifeste.
C'est exactement ça.
Ce qui s'est passé.
Maintenant,
il y a quand même un manque de maîtrise évident. Alors, c'est vrai qu'il va un petit peu trop vite. Il fait une erreur. C'est pas un défenseur, faut pas l'oublier. Donc, lui, il a le mauvais réflexe du non-défenseur. C'est-à-dire qu'il veut très vite aller sur la balle. Il voit que la balle est très haute. Il a le réflexe de mettre son pied en hauteur, comme il le ferait avec un geste d'attaquant devant le but adverse. Pour moi, il y a faute. Je vois même pas. À quel moment on peut refuser le faute. Alors, je me demande, est-ce que l'arbitre, ou même les arbitres du VAR, parce qu'il y a ça aussi, comme c'est un grand arbitre qui était sur le terrain, ils se disent, on ne va peut-être pas aller à l'encontre de ce qu'il a pris comme décision. Comme ça, on se protège. les gens dans le VAR se protègent, et puis ça permet à l'arbitre de garder la main sur le match. C'est une possibilité, parce que sinon, je ne vois pas comment on ne demande pas au moins à l'arbitre d'aller voir par lui-même ces images-là. On lui dit, c'est ça qui est
incompréhensible.
J'insiste, parce que en Angleterre, comme dans plein de pays, mais en Angleterre, même quand c'est un grand nom qui arbitre, on n'hésite pas à lui dire, hep, tu t'es peut-être trompé là. Donc, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'au final, ils se disent quoi ? Ils se disent vraiment donc que ton erreur ou ta décision n'est pas une erreur manifeste. C'est là mon incompréhension.
Alors, il faut le dire aussi, c'est que le championnat d'Angleterre est un championnat où il y a beaucoup plus d'impact.
Bref.
C'est-à-dire qu'on siffle plus difficilement. Bref. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu. Je voyais souvent dans les matchs du week-end, même des mains dans les surfaces, je disais non, les jeux, laissez jouer. Ce que je trouve sympa d'ailleurs, parce que ça donne du rythme au championnat d'Angleterre
c'est mieux.
Parce que si on commence dès qu'il y a le moindre contact entre deux joueurs à siffler une faute, ça hache le jeu. Et ce qui rend le championnat anglais aussi passionnant aussi, c'est le rythme, l'intensité qu'il peut y avoir. Et l'intensité liée hier, aussi à ces contacts.
Hier, si vous voulez montrer à de jeunes footballeurs ce que c'est que le rythme et l'intensité, vous pouvez leur montrer ce match-là.
Sur les 25 dernières minutes, ça ne s'arrête jamais.
C'est même un rythme qui me semble plus élevé et une intensité plus haute qu'un match de Ligue des Champions.
Évidemment.
Vous avez deux équipes qui peuvent gagner la Ligue des Champions.
C'est ça.
Pas Liverpool cette année, qui ont le niveau pour gagner la Ligue des Champions.
Mais vous, en début d'émission, vous parliez, on en reparlera. Mais peut-être que la dernière journée en Angleterre, on parlera de ce match, que ce pénalty qui n'est pas sifflé.
Absolument.
Cette fois, tout pas. On risque d'en parler. Ça peut être l'action de la saison, comme Doku qui ferait le poteau, si c'est poteau rentrant. Le game, il est plié, c'est City qui est devant, Arsenal derrière et Liverpool est après. Donc, on va en parler longtemps. Je suis ravi d'être avec vous, je suis très honoré, messieurs. Parce que là, ça marquera l'histoire. On sera très vieux dans pas longtemps, mais on s'en rappellera.
Mais d'ailleurs, ce que vous dites, c'est Jürgen Klopp, hier en conférence de presse, qui après le match évoque forcément le penalty, et il dit « Mais rappelez-vous, il y a quelques années, lors d'un Liverpool-City, Vincent Kompany qui avait fait une énorme faute au milieu de terrain, qui aurait dû prendre un rouge, il n'avait pas pris rouge, et à l'issue de la saison, on perd pour un point ». Imaginez ce jour-là, c'est les prix rouges, Liverpool à 11 contre 10 aurait peut-être gagné.
Le seul problème, c'est quand on refait comme ça tous les événements, il faudra repasser à travers tous les matchs et il y a bien des matchs à droite, à gauche, où on a gagné des points.
Et où Liverpool aussi a été favorisé sur certaines décisions.
Donc,
absolument.
Bon, ce qui serait sympa, aussi,
vous avez raison,
c'est qu'on paye quelqu'un pour réécouter en fin de saison toutes les émissions et tout ce qui s'est dit et puis qu'on arrive à faire une ou deux émissions où on dit alors, en mars. Vous aviez dit ça, et ben c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé.
Alors, c'est vrai avec eux, avec moi non.
C'est vrai, je suis bête, j'avais pas. Je vous propose d'écouter Pep Guardiola. Je vous ai dit, on a écouté Klopp Guardiola, et alors il s'est ennuyé lui pendant ce match, il a pris du plaisir, faites-vous une idée.
Je pense que c'est un match qui illustre ce que sont les deux clubs depuis de nombreuses années. Tous ces matchs se ressemblent. Nous avons joué avec de la personnalité, nous avons aussi réussi à bien jouer les transitions. Et puis, nous en avons parlé à la mi-temps. Dans ce stade, si vous voulez défendre en deuxième période pour conserver votre avantage, vous n'avez aucune chance. Il faut jouer, jouer et jouer. On a concédé un pénalty. Tôt ou tard, dans ce stade, vous faites face à de gros temps faibles de 15 à 20 minutes. Ça ressemble à un tsunami. Vous laissez le ballon et tout le reste.
Il kiffe son sport, hein, Guardiola. C'est marrant d'entendre quand même et Klopp et Guardiola, d'avoir cette image de ces deux hommes qui se sont tant croisés et qui vont se quitter un temps.
Nous nous sommes tant
forcément,
aimés.
Mais c'est sympa de les entendre et de voir quelles patates ils ont pour commenter ces matchs-là après.
Oui, même si, encore une fois, là, Jürgen Klopp, là, cette patate, même s'il l'a très bien expliqué, encore une fois, s'il arrête de manière ponctuelle ou pas, d'ailleurs, on verra sur le banc de Liverpool, c'est que justement, ça lui prend trop d'énergie. Il l'a dit, hein, je suis out of energy, je suis totalement à bout, épuisé, et on peut comprendre, parce qu'on le voit sur le banc, à quel point il se donne, sur le banc, sans doute à l'entraînement au quotidien, et à un moment donné, quand vous êtes à la tête de Liverpool, vous devez vous reposer à un moment donné.
Et après, les mots sont très importants, parce que c'est quand même Guardiola, c'est quand même la référence. Le terme est énorme, il dit on a pris un tsunami.
Oui.
Là, c'est pas Gassé, c'est pas Gourvennec, c'est pas moi. Là, lui, il te dit, on a pris un tsunami. C'est-à-dire que la violence du stade et ce qui s'est passé, je peux plus rien faire. Je suis désolé, les amis. Je suis Guardiola, je suis peut-être le meilleur, mais c'est un tsunami. Ça nous roule dessus. On a fait une erreur. À partir de là, il le dit, c'est parti. C'est-à-dire que là, c'est ça qui est fou.
Il y a une chose qui m'étonne toujours, moi, avec Guardiola, c'est qu'il a quand même des gros bancs.
Ah oui.
Et il les utilise pas. Très peu. Là encore, il doit faire deux changements.
Un peu quand même.
Non, il change très peu de joueurs.
Bah, tu sais qu'il
là, il
pas
a changé deux joueurs. Et il a changé tôt, ce qui est plus rare, la sortie de De Bruyne, qui lui a valu un petit face-à-face tendu avec son joueur. Mais vous allez voir, il a dû changer deux joueurs ou trois joueurs maximum, mais ce qui fait de manière globale. Et souvent, il change les joueurs à 86e, 87e.
Et même parfois, il ne change pas. Hein, ça arrive parfois qu'ils finissent avec le même 11.
Ce qui est rare quand même.
Comme Arsenal.
Alors,
Comme Arsenal.
Pour un entraîneur. On est donc d'accord pour dire qu'on a deux entraîneurs à la hauteur. Et nous, ce qui est bien, RFI, c'est qu'on a un consultant qui est à l'écoute. Et même, on peut dire à la hauteur. Joseph-Antoine Bell, ça vous dit quelque chose?
Ah oui.
Il est à Douala, les amis. Là où nous irons d'ailleurs dans 20-25 minutes à Douala pour parler de l'âge des joueurs. Bah non. Alors, Jo, je me suis dit, tiens, il entre en contact parce que lui-même veut nous annoncer qu'en fait, il a 45 ans et pas 60 et quelques. Pas du tout. Il est à l'écoute et il nous dit quoi, Jo? Liverpool City, on parle de pied haut, donc de coup franc indirect, pas de pénalty. Pied haut, c'est différent du coup de pied, écrit-il. Il n'y a pas non plus eu de coup franc indirect. Mais voilà, il est encore là, le Jo, pour nous expliquer. On l'embrasse très fort, Jo, et toute la famille là-bas à Douala.
Permettez-moi de ne pas dire Jo, mais Monsieur Bell, là, pour le coup, je ne pouvais pas me permettre.
Il n'y a pas de problème.
Mais là où effectivement Joseph-Antoine Bell a raison, c'est que ce pied haut, et c'est vrai, dans les règles, j'insiste, quand il n'y a pas de blessure, hein, faut bien le préciser, c'est un coup franc direct. Sauf qu'on ne le voit plus, ça.
Ça n'existe plus.
L'arbitre ne siffle plus.
Malheureusement, c'est vrai.
Ça a disparu du règlement.
Merci, Jo, en tout cas.
Le seul coup franc direct qu'on voit, c'est effectivement sur les passes en retrait au gardien. Ce genre de choses. Mais sinon, c'est très rare.
On va y penser de temps en temps, comme une émission qui n'existe plus. Le coup de fil à un ami, on appellerait Jo comme ça.
Ah ouais,
c'est un ami. City, 21 matchs sans défaite, quand même. On ne l'a pas donné cette stat. Hein. C'était le 21e match de rang sans défaite. Et puis, je voudrais aussi qu'on dise un mot sur Salah. On est content de le revoir. On n'imaginait pas la CAN lorsque, d'ailleurs, il était dans le même hôtel que nous. Il commençait à se faire soigner. Ouais, j'aurais bien aimé, mais c'était compliqué. Il y avait déjà des gars pas gentils autour de lui. On n'imaginait pas qu'il serait deux mois sans jouer. On n'imaginait pas du tout la gravité de cette blessure. Il a repris. On a bien vu qu'il n'était pas du tout à 100%.
Comme quoi, c'était pas fin, au final. Même parce qu'il est revenu relativement tôt à l'entraînement au début du mois, précédent. Donc, on s'est dit, ah, peut-être qu'il va revenir. Et finalement, non, on a pris son temps. Exactement. On a pris son temps à Liverpool, comme quoi il n'était vraiment pas à 100% pour le coup. Et pour le coup, d'ailleurs, Liverpool et la fédération égyptienne se sont plutôt bien entendus de manière, je trouve, plutôt intelligente, puisque sur la trêve de mars, l'Égypte a accepté de ne pas le prendre, pour le
coup. Juste après que Klopp, dans une conférence de presse, ait dit, on entendait ça dans un sujet de Cédric de Oliveira ce week-end sur RFI, où on sentait bien que Klopp, il n'avait pas trop envie de le voir partir pour ces deux matchs amicaux, on le rappelle, du mois de mars.
Alors que l'Égypte le voulait absolument, avait même menacé en disant, si vous le faites jouer, c'était ça le propos, si vous le faites jouer ne serait-ce qu'une fois sur la période en question, entre les rumeurs de retour en sélection et la trêve de mars, ben on le prendra forcément, ça veut dire qu'il est apte. Et ben pour le coup, il y a eu un accord et une bonne intelligence entre les deux parties.
Oui, parce qu'il n'est pas encore
des matchs amicaux, quoi.
Au top, exactement. Au classement, trois équipes en un point, on l'a dit, on va en finir avec l'Angleterre, mais on dresse ce décor. Arsenal, donc, qui a battu Brentford 2-1, est leader à la différence de but.
Incroyable.
C'est vrai que c'est le grand gagnant du week-end devant Liverpool. City est à un point, Aston Villa, quatrième, est à 8 longueurs. C'est pour ça que, voilà, on a un tiercé. On sait qu'a priori, l'un des trois sera champion.
On peut au moins s'avancer là-dessus.
Ah ouais, pas loin, voilà. Vous savez, on sait jamais. Hein.
Ouais. C'est un sprint royal qui nous attend. On rappelle que le 31 mars, c'est le week-end de Pâques, les amis. City-Arsenal et Liverpool-Brighton. À chacun, avant d'en finir avec la Première Ligue, donnez-moi votre podium à la fin de la saison, mon cher
Alors,
Hervé Penaud.
Si ça doit être réécouté dans trois mois, je vais donner les trois. Alors, on va commencer la première, c'est avec Liverpool. Le deuxième, c'est Manchester City. Allez, moi... Je crois qu'Arsenal, je pense que ça va être dur contre City. Après, il y aura le club qui va être un peu le facteur X, qui sera Tottenham. Je pense que Tottenham
qui affronte les trois en trois semaines.
Voilà, qui va affronter les trois. Ça va être compliqué. J'ai regardé les calendriers. Je ne crois jamais au calendrier, moi. Mais bon, je les ai quand même regardés. Il n'empêche que sur l'ensemble, allez, je verrais bien Liverpool quand même.
Liverpool premier, City deuxième, Arsenal troisième.
Voilà.
Tout ça pour ça.
Marc. Allez, Marc. Alors quoi ?
City, Arsenal, Liverpool.
City, Arsenal, Liverpool. Salim, on lui demande pas. West Ham.
Non, c'est West. Ouais, c'est West Ham, voilà, le troisième. Voilà.
Liverpool en 1, effectivement, avec une dernière journée. Alors, vous allez me dire, vous allez rire, puisque la dernière journée, il y a City, West Ham. Mais que Moyes, ancien coach d'Everton, puisse réaliser un coup énorme à City et offrir le titre à Liverpool, ce serait presque pour le storytelling du truc. Pour finir cette saison, ce serait une dinguerie. Donc, je vois bien Liverpool gagner comme ça ce titre devant City et Arsenal, troisième.
Mine de rien, la petite avance qu'il a aujourd'hui, elle sera utile.
Absolument. Ça va aussi dépendre peut-être du parcours de City en Ligue des Champions. Des
et de Liverpool en Europa League aussi. Hein,
bien sûr. Hein.
Absolument. Et d'Arsenal aussi en Ligue des Champions. Arsenal qui affronte Porto.
Bien sûr.
Forcément, il y a des pertes d'énergie ou pas. Imaginez qu'Arsenal se fasse sortir par Porto. Il y aura peut-être finalement un avantage pour les Gunners.
Liverpool, Arsenal et City.
J'espère que tout est enregistré.
En ce qui me concerne, ouais. Allez hop, ça mange pas de pain. Mais nos auditeurs ont bien compris depuis tant d'années que quand j'annonce un pronostic, il se passe l'inverse.
Ce qui va être énorme, c'est quand les auditeurs vont réécouter l'émission et dire quand même ce penaud, c'est autre chose.
Et les autres, quelle trompette. Allez, on s'est régalé avec la Première Ligue. Essayons d'en faire autant avec la Ligue.
On a eu d'autres qualités, d'autres vertus, de solidité, de solidarité qui font plaisir à voir.
Il a tiré.
On a été héroïque. C'est le joueur.
Et encore ! Oh, quel joueur ! Oh, quel joueur ! Il a très peu de ballons ce soir et il nous offre une masterclass.
Non, on continue encore un peu. Allez, top. Merci Monsieur De Gueldre, c'est pas pour faire plaisir à Marc Libra, c'est juste qu'on aime bien ça. Ça existait de votre temps cette musique ?
Pas celle-là.
Ah voilà, c'est ça, c'est trop vieux. C'était. Vous c'était quoi ? Plutôt Charles Trenet ?
C'était Edith Piaf.
Oula ! Ouais. On ne rentrait pas dans le débat. On veut pas d'embrouille.
Là, attention.
Mais qui arrêtera l'OM, nom de Dieu ? Gattuso avait laissé cette équipe aux abois il y a moins d'un mois. 5 matchs et autant de probantes victoires plus tard. Jean-Louis Gasset l'envoie quasiment en quart de la Ligue Europa. On rappelle que le match allait quand même 4-0 face à Villarreal.
Oui, face à un club espagnol, oui, c'est vrai, 4-0, c'est tranquille. C'est bon, c'est tranquille.
Il y a eu un précédent dans l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Et surtout, c'est il la remonte.
C'est qui, je ne me rappelle pas.
Ouais. Non, on ne s'en souvient pas non plus. Et donc, remonte cette équipe à la 6e place, 7e place du championnat. Parce que c'est Nice, on en dira un mot. C'est dingue, ça, quand même, de retrouver cet OM dans cet état-là, Marc.
Oui, c'est assez impressionnant. Alors, si on est un petit peu dur, on peut se dire qu'ils ont croisé des équipes de faible niveau, que ça soit Montpellier, que ça soit Clermont.
Là, on va parler de la suite.
Pour moi, le révélateur reste quand même le match de Montpellier, où ils perdent 1-0. Ferry touche le poteau, autrement, il y a peut-être 2-0 à la 30e. Et là, je crois qu'on ne parle plus. Ils rentrent à la mi-temps, je crois qu'on n'est plus dans le même match du tout. Et finalement, ils égalisent derrière. Il y a encore un poteau où ils peuvent gagner 2-1, Montpellier. Et puis après, ça déroule, ça met 4 buts. Et puis après... Voilà, donc je pense que ce match-là de Gasset est très révélateur de ce qui se passe. Il y a une euphorie, il y a une folie qui se passe. Sur le match de hier, je trouve que l'arbitrage a avantagé un petit peu Marseille sur ce coup. On va parler de 2 pénaltys ou un qui était flagrant. Mais après, que ça soit Marseille, ils sont rincés, quoi. C'est-à-dire qu'on les sent rincés. Aubame a fait la différence, mais ils sont un peu fatigués pour moi.
On va écouter Jean-Louis Gasset, c'est pas très très long, ça dure 17 secondes, il est pas peu fier et ça nous permettra de dérouler derrière.
Fier de l'état d'esprit, on n'avait pas 90 minutes dans les jambes. On a eu d'autres qualités de solidité et de solidarité qui font plaisir à voir, même si aujourd'hui on n'était pas très fringants.
Ce qui est bien, c'est quand Jean-Louis Gasset rebondit sur les propos de Marc Libra.
Oui, mais il les avait écoutés, Marc, avant.
Oui, clairement.
Même pas.
Non, mais c'est vrai que voir l'OM renaître ainsi de ses cendres, qui l'eût cru il y a quelques semaines, alors que la canne arrivait, qu'ils allaient perdre tant de joueurs.
D'ailleurs, ils ont perdu aussi beaucoup de matchs à cette époque-là. Il ne faut pas l'oublier. C'est que la canne a été quand même terrible pour l'OM. Et surtout, c'est que depuis que Gasset est là, il a réussi à redonner une forme de confiance à certains joueurs. Et j'en veux pour preuve, là, on parlait de la canne, j'en veux pour preuve Illiman Ndiaye, par exemple, qui n'est plus tout à fait le même joueur, même si hier, il n'a pas fait un grand match, pour être honnête. Mais il n'empêche qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Et puis, Ismaïl Assar. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'Ismaïl Assar, potentiel assez incroyable, mais il faut savoir le prendre et le gérer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lui parler, expliquer qu'on a une énorme confiance en lui, parce que sinon il perd vite ses moyens, et puis après il fait un petit peu, si ce n'est n'importe quoi, mais il part dans des chevauchées qui ne correspondent pas toujours au sens du jeu. Et alors que là, on a l'impression qu'il était recadré, et surtout on lui a fait confiance. Le premier match, il n'était pas titulaire, il était remplaçant, mais on avait senti Ghislain Printemps qui était allé le voir, qui avait discuté avec lui. Après, quand il rentre dans le vestiaire, il y a une petite vidéo du site officiel de l'OM, et on voit Printemps qui dit, tu vois, je t'avais dit que tu ferais la différence, je t'avais dit que c'est pas parce que t'es remplaçant et depuis il est tout le temps titulaire. Et comme l'a dit très bien Jean-Louis Gasset, aussi bien lui, Aubameyang, aujourd'hui il est obligé de les faire jouer tout le temps parce qu'il sait qu'il en a énormément besoin. Mais à un moment, il faut tirer un peu sur la corde, mais ils vont être un peu obligés, malheureusement. Et puis, vous avez un Pierre-Emerick Aubameyang qui vole, quoi.
Qu'est-ce qu'il a bien pu dire ? Vous étiez là lundi dernier, déjà, Salim. C'est vrai qu'on a parlé de Jean-Louis Gasset. Là, on va vite aller vers Pierre-Emerick Aubameyang, mais l'OM s'impose quasiment tous les lundis. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire, Jean-Louis Gasset, pour remettre ses troupes dans le sens de la marche, Marc ou Salim ?
C'était hier, chez nos confrères de Prime, Quentin Merlin qui parlait après le match et qui disait « Ah, moi, je suis surpris. Veille de match, on a fait une partie de Uno ensemble pour rigoler, etc. » Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre.
C'est un jeu de cartes pour nos amis absolument. Qui ne connaissent pas ce jeu. Un jeu de cartes très sympa.
Je crois que c'est une voiture.
Très prisé par les...
c'est une voiture.
Fiat Punto.
Et c'est vrai que, simplement de dire ça, c'est quoi ? C'est ce travail autour de la cohésion du groupe, là, le côté famille, le côté on s'entend bien les gars, on est ensemble, où on se dit les choses quand il faut se les dire, etc. C'est ce travail-là qu'il a réussi à faire. Il n'y a pas forcément de propos, et Marc va peut-être aller dans mon sens ou pas d'ailleurs, mais il n'y a peut-être pas forcément de propos.
Ça m'étonnerait qu'il aille dans ton sens, il déteste être de ton avis.
Mais c'est vrai qu'il y a cette cohésion qu'il a réussi à travailler son métier. En tout cas, c'est ce que Quentin Merlin disait, comme quoi il y a des choses simples qui ont réussi à être faites. Quoi.
Est-ce qu'on peut parler de cohésion ? Parce que ce que nous expliquent les joueurs quand ça fonctionne après 5 rencontres, que tout va bien, c'était super. Quelques-uns ont remercié Gattuso aussi au passage lors des précédents matchs.
C'est
hyper important. Après, pour connaître un petit peu l'homme, parce que je l'ai croisé quelques fois, je pense qu'il aura dit, les gars, j'ai 70 piges, moi c'est fini, si vous voulez flamber, bougez-vous, autrement, moi je vais partir dans pas longtemps. Hein. Mais il faut leur parler comme ça, parce que la saison était ratée, la saison elle était finie quoi qu'il arrive. Quand tu te qualifies pas pour ta Ligue des Champions, tu t'es déjà mis tirer une balle dans la jambe. Donc qu'est-ce que tu attends de plus ? Finir avec Gattuso, c'est le problème, parce que moi je suis là, je suis le quatrième, parce que je compte pas Pancho aussi qui a dépanné. Donc je suis le quatrième, il peut leur dire, mais de toute façon moi je vais partir les amis, là je suis là pour dépanner avec mon ami, on vous dépanne. On vous met dans le sens de la marche. On va remettre des joueurs en selle comme Sarr qui ne rentrait pas dans les plans, parce que ça, c'est toujours important. Vous avez un joueur qui vous aime, qui ne vous aime pas. Ben là, un nouveau qui arrive, celui qui est à la cave depuis 6 mois, il rentre à la main, il dit putain, l'entraîneur, il s'en va, j'ai une quoi à jouer. Et là, on rebat les cartes. Et finalement, Sarr, tiens, mais quelle mobilette sur le côté. Mais Hervé explique qu'il faut savoir le prendre. C'est juste qu'il lui dit, mon garçon, j'ai confiance en toi. C'est tout ce qu'on doit lui dire. Et ça fonctionne.
Et pour l'avoir vécu, parce que j'étais lors d'un stage de préparation en janvier.
PSG, non ?
Non, Saint-Etienne. Donc Jean-Louis Gasset a récupéré l'équipe avec Ghislain Printemps et vous aviez l'entraînement, c'est un centre un peu spécial pour les équipes qui viennent préparer les saisons. Vous aviez d'un côté Lille avec Christophe Galtier qui reprenait l'équipe de Lille et de l'autre côté vous avez Saint-Etienne. Et je discutais donc avec Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps et Jean-Louis me disait oh là là, avec son accent là, oh là là, il y a un manque de confiance. Hein. Mais alors ce qu'il avait décidé, et j'ai vu qu'il a fait un peu ça à Marseille, parce que quand j'ai lu entre les lignes, sur les premiers entraînements, il me disait, toi, première chose que je fais pour redonner confiance, interdiction de faire pressing sur porteur de balle. Parce qu'il dit, le problème, c'est que les mecs n'ont tellement pas confiance que quand tu as un pressing, ils perdent tout de suite la balle, donc il n'y a pas une passe qui arrive. Et en fait, tout le monde se dit, mais on a la tête à l'envers. Alors là, il y a une touche de balle, deux touches de balle, interdiction de pressing. Après, vous pouvez quand même commencer à le faire. Donc ça fait que pour redonner confiance aux joueurs, pour se dire, il me dit, c'est des exercices d'une simplicité incroyable. Hop, la passe à 3 mètres, à 4 mètres, mais si quelqu'un vient de presser, tu ne la fais plus. Donc il faut redonner cette confiance-là. Et il a joué là-dessus. Parce qu'évidemment, qu'en 3 semaines, il n'a pas changé la qualité des joueurs.
Et ça marche. On l'a dit, 5 victoires de rang, 18 buts marqués, seulement 3 en encaissé, voilà l'OM 7e à 3 longueurs de Lille, le 4e. On rappelle que la saison prochaine, les 3 premiers vont en Ligue des Champions. Le 4e disputera le barrage. Donc, à 3 points de ce barrage potentiel, à 6 du podium, c'est incroyable de se dire que la Ligue des Champions est peut-être en vue.
Oh, ça serait magnifique. Non, mais ça serait un exploit. Parce que là, on s'enflamme. Si Marseille finit sur le podium.
Troisième, ce serait exceptionnel.
Ah non, mais c'est exceptionnel. Moi, j'avais dit il y a quelques temps, j'avais dit, j'espère vraiment que l'OM doit être européen. Même la petite Coupe d'Europe, il faut la prendre. Il faut la prendre parce que c'est peut-être le niveau de l'OM aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, il y a une surprise, et c'est, là, ça, on pourrait parler de miracle. Alors, est-ce que c'est le miracle de Longoria ? Est-ce que c'est le miracle de Gasset ? Là, il faut la trouver, mais on n'y est pas encore, parce que là, on va dire que certains peuvent dire oui, ils ont croisé des équipes de bas de tableau.
C'est
là, les gros vont arriver. On se rappelle de Lyon qui nous dit on est sur une paire série, tu rencontres Lens, t'en prends 3 chez toi et tu t'es fait rouster. Donc attention à Marseille, attention.
Et tout ça, notamment grâce à PEA. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, 11 buts, 5 passes décisives en championnat, 23 buts, toutes compétitions confondues en 37 matchs, 9 en Ligue Europa. Il est le meilleur buteur historiquement de cette compétition, Ligue Europa, Coupe UEFA, comme elle s'appelait dans l'ancien temps. Amine Harit en parle bien et en bien.
Pour un joueur qui a fait autant de grands clubs, qui a une carrière qui est la sienne, honnêtement, on dirait pas. C'est quelqu'un qui est très simple, qui rigole avec tout le monde, qui se prend vraiment pas la tête. C'est quelqu'un de très humain, qui est là pour tout le monde, qui est là dans les moments difficiles pour ceux qui en ont un peu plus besoin, de par son expérience. Mais vivre avec lui au quotidien, c'est vraiment une très très belle surprise sur sa personne.
L'éloge de ses partenaires, en tout cas de ce partenaire-là, mais de ses partenaires en général. Il a 34 ans et on le retrouve comme, bah, comme du temps où il était pris, Marc, Vivien, Fouet, comme du temps de Saint-Etienne, avant d'aller flamber à Arsenal notamment.
Est-ce qu'il faut connaître, il faut le connaître un petit peu. Bon, j'ai cette chance-là, parce que ça fait quand même quelques années que je le fréquente. Mais c'est quelqu'un d'enthousiaste et de frais. Il adore le foot, mais c'est un truc de malade. Avec son père, ils allaient jouer tout le temps avec les frères, des petits matchs improvisés entre deux voitures quand ils étaient en Espagne. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Il a eu une année difficile parce que son père a eu un gros souci de santé. Et quand vous connaissez les relations entre lui et son père, je veux dire, c'est tellement... fusionnel. Donc ça fait que ça l'a hyper impacté. Mais sinon, des buts, il en a toujours marqué. Moi, je l'ai souvent dit ici,
absolument,
à ce micro. Je dis, mais attendez, mais il a toujours marqué des buts. Même à Barcelone, il met 10 ou 11 buts.
Ah, oui.
C'est-à-dire qu'il a toujours marqué. C'est son métier. C'est un joueur qui adore le foot. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais eu de doute sur la possibilité qu'il s'explose, qu'il s'éclate à l'OM. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et 34 ans ou pas, alors je ne dis pas qu'il va jouer jusqu'à 45 ans, mais lui, il est frais. C'est un enthousiaste.
Encore une fois, il y a une chose, alors que Pierre-Emerick Aubameyang peut-être perd un petit peu avec l'âge, c'est évident, la vitesse, on peut l'entendre, bien sûr.
C'est logique.
Mais il a une qualité de finition, Pierre-Emerick Aubameyang. Et ça se perd pas, pour le coup. Il l'a encore. La seule période où il a été un peu plus en délicatesse, c'était à Chelsea. Dans la période où, effectivement, notamment...
C'est dans une période où il était touché personnellement.
Absolument. Mais sinon, il a toujours marqué des buts. Même à Barcelone, dans les périodes délicates du Barça, il marquait encore.
Et vous n'allez jamais voir un joueur qui va vous dire oh, « il n'est pas sympa, il n'est pas drôle ». Ce que dit Harit, enfin, tout le monde sait que Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un type charmant. Il a toujours été comme ça. C'est un mec sympa, bling-bling, très cool.
Et
avec sa fameuse voiture, Aston Martin.
Je vais aller beaucoup plus loin.
Couleur or. Mais, c'est la voiture de James Bond, nom de Dieu. On lui avait dit d'ailleurs à l'époque.
Sur ces dernières années, en neuf, je dis bien parce que c'est vrai que l'utilisation d'Alexis Sanchez n'était pas peut-être la même. Sans doute d'ailleurs, mais à Marseille, il faut remonter un moment pour avoir un neuf de cette qualité-là.
Bien sûr,
qui
évidemment.
Des buts comme ça,
évidemment.
Ça remonte, il faut y aller hein, pour le coup pour en trouver un. Mais avoir Aubameyang, c'est une merveille, c'est une chance de dingue pour l'OM.
C'est un truc de fou. Et ils l'ont relancé parce qu'il fallait un joueur comme ça, il ne pouvait pas prendre. Vous pouvez pas prendre un joueur de ce calibre-là à l'OM, c'est pas possible. Donc il fallait qu'il sorte d'une période un peu moins facile. Mm-hmm. Pour les gens se posent des questions. Est-ce mm-hmm. Donc il fallait tenter de le relancer. Ils l'ont fait, mais c'est une bénédiction pour l'OM. Hein.
Les
buts, il sait très bien comment ça fonctionne. Et même dans les situations précédentes avec les entraîneurs, parce qu'il a quand même eu trois entraîneurs, il faut le rappeler, il n'a jamais joué dans le même système. Donc du coup, on pose un système. Et l'importance d'un Jean-Louis Gasset qui dit, c'est simple, un neuf. Il sait marquer des buts, donc maintenant on va construire, on va jouer pour lui. Croyez-moi, vous lui filez quatre occasions par match, il peut en marquer deux jusqu'à la fin de la saison. Il est capable de le faire. C'est que... On se rappelle le match à Lyon où l'OM perd à Lyon. Il a seulement un ballon dans le trou. Il fait un petit piqué, elle touche à transversale. C'était un toucher magnifique. Il n'avait qu'une occasion. Il a mis... Donc,
et les deux buts qu'il met hier sont des vrais buts de buteur.
Le premier, un défenseur qui est déjà au sol. Lui, il reste debout et le gardien est au sol. Il a ce temps de réaction pour mettre. Mais c'est vrai qu'il sait marquer des buts. Et de le mettre, comme l'a dit le coach, c'est toi devant, c'est la star. Et à côté, les petits gamins, vous allez jouer pour lui. Et croyez-moi, parce que hier, il faut être très franc. Si c'est pas Aubameyang qui a l'expérience et la finesse.
Si c'est Vitinha, vous voulez dire ?
Mais il faut même pas parler, ça sert à rien. Mais je parle d'un mec qui a une expérience, tu fais 0-0 et t'es frustré. Là, tu sais Aubameyang, merci, tu nous sauves, frère, parce qu'on est vraiment, on est fatigué. Merci beaucoup.
Et puis il est malin, il fait tout ça au moment où, tiens, pas plus tard que ce matin, j'entendais Christophe Jousset, chef du service des sports des RFI.
Qu'est-ce qu'il a dit, Christophe ?
Évoquer une réunion de préparation du prochain prix Fouet. C'est maintenant qu'on va commencer à s'élaborer la liste dans laquelle et bien tous les votants dont vous êtes vont choisir l'heureux élu, d'abord le tiercé et puis l'élu. Et oui, ça commence à venir. Et lui, il était quoi après Marc Vivien Fouet 2014-2015, dans ces années-là, à Saint-Etienne, je viens avoir fait son portrait, mais bon, bref, il ne sera peut-être pas loin d'aller en chercher un deuxième, un prix Fouet, peut-être avant encore. Hein,
oui, peut-être avant.
Je triche sur mon âge.
Je pensais 2011. Et,
rapidement.
Juste, je suis taquin avec Marc, digression en parlant de Vitinha, qui a marqué un sublime but ce week-end avec le Genoa. comme quoi ça arrive.
Bon, je sais pas si on vous rappelle regardez. Que ce débat-là, il faudra qu'on l'ait à nouveau dans un mois, puisque voilà. L'OM joue à Rennes le week-end prochain. Après la trêve internationale, l'OM, le 31 mars, c'est le week-end de Pâques, recevra le PSG.
Facile.
C'est le jour, d'ailleurs, de...
Là, si Jean-Louis Gasset fait 7-7 avec victoire contre le PSG, là, il a une statue.
Ensuite, il y aura Lille-OM le 7 avril et OM-Nice le 14 avril. Ce qui nous amène à dire juste un mot de Nice. Les deux équipes se croisent dans l'ascenseur. Les Niçois, tubes de l'automne et de l'hiver, sont en train de passer complètement au travers. Un point sur 15, c'est-à-dire 4 défaites, 1 nul sur les 5 derniers matchs. C'est la dégringolade totale, même s'ils sont encore 6e.
Incroyable. Faut pas oublier que c'est une équipe qui gagnait ses matchs 15-0. Donc le jour où vous êtes un petit peu moins solide et que ça marque moins, bah vous perdez vos matchs.
C'est surtout qu'on s'ennuie un peu quelquefois. J'ai rencontré un supporter de Nice hier sur un événement et il me disait... Ben on s'en est bien sorti parce qu'il y a toujours un mec qui mettait un but. Et là, on n'arrive plus à trouver le mec. Si c'est Mofi ou Laborde, on est moins bien. Et à l'arrivée, mais ils me disent on s'ennuie quand même.
En plus, offensivement, il y a parfois des déchets ou des manques. Et puis défensivement, pour le coup, ça tenait. Hein. C'est l'une des meilleures défenses du championnat, faut-il le rappeler.
Mais... C'est une des pires attaques. Mais ça c'est ça. La 15e ou 16e attaque de Ligue 1, 24 buts marqués.
Et quand vous voyez les joueurs qui ont un problème. Ouais. Parce que vous avez du Laborde, vous avez du Mofi, vous avez...
J'adore Mofi, hein, moi. Je
vous avez même Guesson est très très intéressant, ouais. Guesson montre des choses.
Absolument.
Il y a du monde devant. Boga, Jérémy Boga,
bien sûr.
Champion d'Afrique.
Bon ben bah, messieurs, je crois qu'on a bien fait le tour de la question en Ligue 1 si on allait au Cameroun.
Ah.
C'est marrant, quel dommage que cette émission ne soit pas filmée.
Ah ouais,
heureusement. Que nos auditeurs puissent voir Salim Bongali singer en quelque sorte, imiter ses pas de danse devenus célèbres du dénommé Nathan Douala. C'est pour ça que je l'appelais Gollum, parce qu'il fait penser un peu à ce personnage.
Et plusieurs joueurs font comme ça maintenant, désormais, oui. Lorsqu'ils marquent, ils font ça. Casser les tolets.
Sans savoir pourquoi d'ailleurs, qui sait exactement ce que ça représente. Enfin bon, il était un peu la mascotte des Lions Indomptables lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Nathan Douala, déclaré plus jeune joueur de la CAN du haut de ses 17 ans. C'est ce qu'on nous disait. Il faisait office d'animateur du groupe retenu par le désormais ex-sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song. Et voilà que ce matin, patatras, le joueur de Victoria United est devenu le symbole d'un nouveau scandale de fraude sur l'âge qui secoue en ce moment le foot camerounais. La fédération camerounaise, la FECAFOOT, vient de sortir une liste de 62 joueurs qui ne sont pas autorisés à participer aux play-offs du championnat, dont, bien sûr, Wilfried Nathan Douala, écarté pour cause de double identité pour avoir menti sur leur âge. Je vous encourage à aller voir l'article publié aujourd'hui par Ndiaye Samb sur RFI.fr. Toujours des articles très intéressants à lire. Nous, je vous propose de filer à Douala, retrouver Georges Mbimbe. Georges Mbimbe, notre confrère qui travaille pour la radio RSI. On échange souvent avec Georges. La question, elle est simple. Georges, bonjour d'abord. Ah non, il n'est pas là. Il n'est pas là encore. Ok. Eh ben alors, ça, on lui dit bonjour.
Il y a la chance d'avoir Hervé Pelon dans ce cas-là.
On va dire un mot. On espère qu'il sera là vite. Ah, le voilà. Bonjour, Georges. Non, il n'est pas là toujours. Bon,
ben. Ah, bah, Georges.
Il va peut-être finir par arriver. Finalement, avec tout ce qu'on a dit, il s'est dit oula, non, ben, je vais pas participer au débat. Oula, attention. Ah, Georges. Je m'inquiétais, Georges. Comment ça va?
Ça va bien, Olivier. Bonsoir, messieurs. Pas de quoi s'inquiéter, je suis là.
Ah, très bien, très bien.
Georges, est-ce qu'on s'inquiète au Cameroun depuis ce matin? C'est un tsunami, pour reprendre l'expression de Pep Guardiola un peu plus tôt dans l'émission. Ou alors, finalement, on en rit presque en disant bah, c'est comme d'habitude.
Non, c'est pratiquement de l'expression de Guardiola. C'est quelque chose d'inattendu. On ne voyait pas vraiment cette liste arriver. Et puis, justement, incarné par un Nathan Douala qui a déjà, ou du moins qui avait déjà beaucoup fait parler de lui juste avant la CAN, non pas pour, dans un premier temps pour sa sélection, mais surtout pour son âge qui avait fuité, 17 ans, ça avait suscité énormément de réactions.
Ah bah oui.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu surpris par cette liste.
Aujourd'hui, on parle de 30-31 ans pour Nathan Douala. On ne sait pas exactement, Georges.
On avance beaucoup de choses. pour être totalement factuel aujourd'hui, il a l'opportunité de démontrer qu'il y aurait eu une erreur. Et je pense, pour avoir un peu discuté avec son entourage, c'est ce qui est prévu. Ils disent avoir des arguments pour démontrer que
qu'il a réellement 17 ans.
Bien, effectivement, et que de toutes les façons, les tests permettent cela.
Ils ont bien sûr le test du poignet.
Tous ceux qui se retrouvent dans sa liste, voilà, pour le démontrer. Et donc on attend. Il n'y a pas encore eu d'âge avancé en réalité, ce qu'il aurait normalement au-delà de 17 ans.
Ouais, ça paraît incroyable d'imaginer qu'il a 17 ans. Il a la coupe de cheveux de Marc Libra déjà. Donc, pardon, Marc. Oui, non,
mais Olivier, je suis très beau comme ça. Vraiment très beau.
Oui, c'est vrai.
Alors, il y a quand même des choses qu'il faut savoir sur ce cas précis. C'est que Mustapha Kessous, le journaliste du Monde, avait rencontré ce joueur-là en 2021 lors de la CAN au Cameroun, dans son club de l'époque. Et bizarrement, il n'est pas le même nom. Il n'avait pas le même nom et pas le même âge non plus. Alors, pas 31 ans, hein, je pense qu'à l'époque, il avait 20-21 ans. Et donc, lui, je pense qu'il va sortir son article. Et il en avait parlé à la Fédération camerounaise. Donc, avant même la CAN, tout le monde était au courant qu'il y avait un doute sur à la fois son identité et son âge. Il n'avait pas sorti le papier tant qu'il n'avait pas de preuves, ni etc. C'est la moindre des choses. Il a fait le travail. Là finalement, on lui sort tout ça sur un plateau doré. Donc, le papier sera très intéressant à lire, alors qu'il ne faisait pas une enquête spécialement sur ce joueur-là en tant que tel. Simplement, il avait rencontré un joueur dans un club et les photos attestant que c'était le même.
Georges, 15 clubs ont tous sont concernés, hein, avec des histoires assez amusantes. Certains clubs avaient accusé d'autres de tricher sur l'âge, puis finalement tout le monde est pris la main dans le panier. Parmi les noms concernés, et ça nous fait bien plaisir, il y a le Canton Sport de Garoua qui joue le jeu. Bref, est-ce qu'on en parle encore une fois chez vous en se disant il y en a marre, on connaissait les tricheries sur l'âge pour les équipes de jeunes, maintenant c'est carrément notre championnat. Et à un moment, il va falloir que ce soit clair, ça, non?
Oui, mais c'est dans le fond, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ce qui est fait, parce que ce qu'il faut expliquer, sur ces questions-là, il y a souvent eu des difficultés au niveau du service en charge des licences à la fédération. Le nouvel exécutif en place en a fait un peu un cheval de base, en estimant que si on retrouve des joueurs qui ont chez qui il y aurait des fraudes en termes d'âge, on a des difficultés à avoir de la traçabilité sur ces joueurs-là quand ils arrivent au haut niveau. Par exemple, ils ont demandé à ce que, avant, pour procéder, ou du moins de remettre des papiers pour des licences, il fallait, on le faisait avec des actes de naissance. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, on sait que parfois, avec des actes de naissance, c'est pas l'assurance tout risque. On peut tripatouiller. On a changé de mécanisme. Ils ont demandé aujourd'hui à ce que tout se fasse avec des cartes nationales d'identité, ce qui est beaucoup plus complexe parce que c'est difficile au Cameroun de pouvoir tromper un peu tout le monde sur la question. Donc il y a vraiment une réelle volonté de la part de l'exécutif actuel d'aller au front contre cette situation. Maintenant, comment est-ce que ça apprécié? C'est diversement apprécié parce que vous le savez, il y en a qui sont pour la fédération, il y en a qui ne le sont pas. C'est la situation actuelle au Cameroun, mais toujours est-il que, voilà, ça c'est fait. Après, ce qu'on peut regretter, c'est le timing. À la fédération, on dit il y a les play-offs qui arrivent, c'est une phase décisive. Du coup, il faudrait que tout le monde soit en règle, par principe, pour s'éviter certaines situations. Et d'un autre côté, on dit peut-être qu'il fallait le faire un peu plus tôt. Donc voilà la situation, mais de manière générale, il y a une forme d'assentiment compte tenu aujourd'hui du combat qu'a fait Samuel Eto'o. Que fait Samuel Eto'o sur ces questions de fraude dont il n'est pas
merci Georges.
Si on peut le dire, son exécutif.
Merci Georges pour ces précisions. Oui. Un dernier mot, quelques secondes,
oui,
Hervé.
C'est effectivement un vrai combat qu'il faut mener et Samuel Eto'o a tout à fait raison. Mais ça ne va pas être simple parce que, comme l'a bien dit Georges, c'est que vous avez des pour et vous avez des contre parce qu'on sait aussi que c'est tout un système qui travaille autour de ça.
Eh ben c'est bien, on en aura parlé. Merci à Georges Bimbe, encore une fois, journaliste camerounais à Douala. Merci à tous. Merci à Monsieur De Gald. Merci à Paulin, notre chauffeur à Abidjan qui nous écoute.